Nous allons continuer cet effort de découvrir l'intention de saint Thomas à travers ces cinq voies. Je ne vous donne pas toutes les interprétations possibles qui ont été données, il y a toute une bibliothèque sur chaque voie. C'est assez effrayant. En fait, plusieurs étudiants ont fait des thèses là-dessus, et c'est effrayant sur la quarta via, entre autres. On pose la question, en quoi la première voie de saint Thomas n'est-elle pas valable dans le domaine de la philosophie de la nature? Est-il possible de démontrer l'existence d'un premier moteur en philosophie de la nature au moyen de cette première voie? Bien, je crois que si vous êtes attentif à la position d'Aristote en physique, si vous êtes attentif à la position de saint Thomas dans le Contra Gentiles, vous voyez que de fait, le point de vue du devenir, ce qui est mu, est beaucoup plus mis en lumière. Ce qui me semble caractériser la position de saint Thomas dans la Somme, c'est le point de vue de l'existence de ce qui est mu. Autrement dit, le jugement d'existence est explicite, tandis qu'il n'est qu'implicite dans la philosophie de la nature. C'est pour ça que cette prima via, elle part bien de la constatation du monde physique, mais elle est directement métaphysique, parce qu'elle est verticale, elle n'est pas du tout horizontale. Donc ce n'est pas du tout le développement de ce qui est mu en tant qu'il est mu, mais c'est le développement, au contraire, l'exister de ce qui est mu. C'est l'exister de ce qui est mu. Donc, c'est ce jugement d'existence présent dans le point de vue de ce qui est mu, qui me semble être ce qui caractérise cette prima via. Et donc, qui me semble bien être dans une perspective métaphysique et non pas dans une perspective de philosophie de la nature. Donc, je crois que ça, c'est assez net une fois qu'on essaie de comprendre. C'est pas commode, hein? C'est sûr, c'est pas commode. La philosophie première éclaire toutes les parties de la philosophie. Je vous le dirai quand nous verrons la lettre en acte et lettre en puissance, puisque c'est là où on le voit le mieux. Donc, si la philosophie de lettre en acte et lettre en puissance éclaire toute la philosophie, on peut dire que le principe de finalité, tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte, va pouvoir illuminer toutes nos expériences. Donc, illuminer l'expérience première, ce qui est mu, l'expérience seconde, ce qui se meut, et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc, formellement, cette prima via est métaphysique. Matériellement, elle part de la philosophie de la nature. Mais tout part de la philosophie de la nature, hein ? Quand vous touchez le sol avec vos pieds, c'est la philosophie de la nature. C'est bien évident, c'est le contact avec le monde physique, le monde sensible. Mais vous éclairez ce contact dans une lumière métaphysique. Tandis que vous pouvez très bien rester uniquement au niveau de la philosophie de la nature. Au niveau de la philosophie de la nature, vous restez... Alors c'est là où la différence, vous voyez, ce qui est mu, vous avez... J'espère que vous comprenez. Ce qui est mu est mu par un autre. Ce principe est vrai au niveau de la philosophie de la nature et il est vrai au niveau de la philosophie première. Alors, ce qui est terrible, vous voyez, c'est là où saint Thomas aurait pu être plus indulgent pour nous. Mais il va vite. Ce principe est le même dans son énoncé en philosophie de la nature. C'est vrai. Aristote l'énonce en philosophie de la nature. Platon l'énonce aussi. C'est un principe in communi. C'est évident. Tout ce qui est mu par un autre, tout à fait commun. Platon, Aristote, Thénard. En philosophie de la nature, ce principe, tout ce qui est mu par un autre, est au niveau de la cause efficiente. En philosophie première, en métaphysique, ce même principe est au niveau de la cause efficiente, de la cause finale. On a toute la différence. Je m'explique pour que vous compreniez. Mais vous devez saisir ça immédiatement, intuitivement, vous devez saisir ça tout de suite. Hein. Tout ce qui est mu par un autre, au niveau de la philosophie de la nature, l'autre, c'est tout simplement un autre mauvais. Un autre mauvais, tout ce qui est mu par un autre. Évident, votre voisin vous pousse. Vous dites tout ce qui est mu par un autre. Vous le saluez comme ça, en le regardant. C'est votre réaction spontanée d'être mu, tout ce qui est mu par un autre. Quelqu'un vous précipite en haut de l'escalier et vous dégringolez. C'est la chute d'un corps. C'est pas la chute d'un vivant, c'est la chute d'un corps. Voyez, parce que le vivant comme tel ne dégringole jamais l'escalier, il le monte. C'est toute la différence. Alors, appliquez ça au point de vue spirituel, vous allez voir toutes les objections. Alors, c'est le corps qui dégringole. Le vivant monte. C'est propre du vivant, il monte. Il se meut. C'est pas la peine de se mouvoir pour descendre, hein. Vous voyez bien, c'est vite dégringolé, c'est ce que font les gosses quand ils prennent la rampe. Ils se meuvent. Ils sont mus, plus exactement. Ils sont mus, c'est le corps. Et ça va plus vite, on dégringole plus vite. Ça. Et c'est l'expérience de celui qui est mu, celui qui se meut. Alors, vous avez ce qui est mu par un autre. Au niveau de la philosophie de la nature, l'autre, c'est tout simplement la cause efficiente. La cause efficiente, je vous l'ai dit, hein. Il est mu. La cause efficiente. Et la cause efficiente, c'est mon bras. Et derrière mon bras, c'est mon intention. C'est la cause efficiente. C'est une cause artificielle. Mais il peut être mu aussi par autre chose. Vous pouvez le laisser comme ça, hein. Puis si c'était, au bout d'un certain temps, ça va se détériorer. Les bibliothécaires le savent. S'il fait un peu d'humidité, ça va se détériorer. Il va y avoir, ça va être mu par un autre. Et l'autre, c'est quoi, hein? C'est les petites bêtes qui vont se mettre dedans. Et qui vont manger ça. Et au bout d'un certain temps, sera mangé. Sera mu par un autre. Un autre, oui, c'est ça. C'est nécessairement. Alors, ça se voit moins vite, mais c'est mu par un autre. Donc, vous êtes dans le monde physique. Et dans le monde physique, c'est la cause efficiente. Et c'est pour ça qu'Aristote dit que tout ce qui est mu par un autre, cause efficiente. Il le dit. Et que saint Thomas, dans le Contra Gentiles, dit encore cause efficiente. Et c'est ça qui a orienté toute la scolastique. Parce que ça a été dit. Tandis que dans la Somme, il ne dit aucune référence à Aristote. Il dit tout ce qui est mu par un autre. L'autre. C'est le premier mauvais. Pour pouvoir dire ça, je ne suis plus en philosophie de la nature, je suis en philosophie première. Vous voyez ? Le premier mauvais est celui qui meut. C'est pour ça que je vous avais dit, tout ce qui est mu par un autre, vous regardez uniquement les deux aspects. Vous regardez ce qui est mu par un autre, causalité efficiente. Ce qui est mu par un autre, causalité finie. La chute du livre, la chute du corps. Et vous faites l'expérience constamment, ça. Alors, il y a les doubles regards, et c'est ça qui est difficile pour nous. Parce que quand il y a un double regard, c'est beaucoup plus difficile à comprendre qu'il faut regarder. Saint Thomas ne le dit pas, il aurait pu le dire. Hein? Quand on sera au ciel, on dira à Saint Thomas, vous auriez pu dire ça, quand même. Hein? Vous auriez pu dire causalité finale. Hein? Parce que vous voyez bien, tous ont dit causalité efficiente. Et en disant causalité efficiente, on ne conclut rien. Puisque la causalité efficiente n'atteint pas proprement le point de vue de l'être. Alors quand vous atteignez Dieu, vous n'atteignez pas un premier mauvais qui est mu. Vous atteignez un premier être au-delà de tout ce qui est mu. Donc c'est vraiment un être que vous atteignez. Vous ne pouvez atteindre Dieu que du point de vue de l'être. Vous voyez ça, vous pourrez répondre. Dieu ne peut être atteint que du point de vue de l'être, et non pas du point de vue du devenir. Donc je ne peux l'atteindre qu'en me plaçant du côté de la causalité du climat. Alors une fois que j'ai saisi ça, j'interprète cette première via de cette manière-là. Alors saint Thomas aurait pu dire, tout simplement, tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Alors à ce moment-là, vous commencez à comprendre, tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Vous comprenez que l'acte, c'est l'autre, et vous comprenez que c'est la cause finale. Alors il faut être suffisamment intelligent pour interpréter saint Thomas, ce qui est difficile, hein. Que pour interpréter, vous voyez, pour interpréter un auteur aussi profond que saint Thomas, il faut comprendre sa métaphysique. Si on ne comprend pas sa métaphysique, on ne peut pas l'interpréter. On interprète toujours quelque chose qui diminue. Et c'est très vrai qu'à partir de Octave, la prima via, à partir de Octave, la prima via est interprétée par la cause efficience. Et on dit, c'est très simple, on interprète saint Thomas par saint Thomas. Parce que dans le contrat Gentilex, saint Thomas faisant allusion à Aristote, parle de la causalité efficiente. Mais dès que vous réfléchissez sur le fait que saint Thomas aboutit, conclut le primum movens, le primum movens est au-delà de tout ce qui est mu. Donc ce primum movens ne peut être qu'au niveau de l'être. Autrement, il ne serait pas Dieu. Donc s'il ne peut être qu'au niveau de l'être, le primum movens qui est l'autre, ne peut être atteint que par la causalité finale. Je ne peux atteindre l'autre au niveau de l'être que par la causalité finale. Alors ça, il faut y réfléchir. Hein. Prenez cette petite phrase et réfléchissez à l'autre. Je ne peux atteindre l'autre comme autre, un autre qui existe, que par la causalité finale. Alors ici, j'atteins vraiment l'autre. Et la conclusion, c'est qu'il existe, nécessairement un autre que vous approuviez. Vous voyez, j'insiste ici parce que c'est la prima via, vous voyez, qui commande toutes les autres d'une certaine manière. Hein. C'est comme Petit Jean. Hein. C'est la plus facile, c'est ça, je connais le mieux. Je connais le mieux ça. C'est la prima via, c'est la voie la plus manifeste, la plus facile et en même temps la plus difficile pour nous. Parce que ce point de départ et la manière de dénoncer ce principe m'oriente vers la causalité efficiente. M'oriente vers le point de vue de la philosophie de la nature. Alors, comme ça m'oriente de ce côté-là, je suis dans une impasse. Bon, alors, voyons maintenant la seconda via. Bon, j'insiste pas trop sur une, puisque les cinq doivent se voir en même temps. Très bien. On dit que M. Mural, t'es malade. Alors, bigre, hein. Pour lui. Parce que c'est vrai, c'est même. On va lui envoyer une carte en lui disant que tout le temps qu'on aurait passé à écouter ses cours, on va payer pour lui. Voilà, hein, oui, mobilisation. Bon, la secunda via, la seconde voie. C'est le temps des grippes. Hein, vous savez bien, c'est le temps des grippes. Il faut faire attention, il faut se gendarmer contre les grippes. Et donc, quand vous voyez un de vos frères qui a la grippe, la grande charité fraternelle, c'est de ne pas aller le voir. La grande charité fraternelle, c'est de ne pas aller le voir. En disant, il est grippé, sauvons la communauté. Parce que ne pas aller le voir, c'est sauver la communauté. Non. Alors, la seconda via. La seconde voie se réfère à la notion de cause efficiente. Alors, voyez voir. Ex ratione causae efficientis. Alors, comprenez bien cette manière dont saint Thomas intitule. Là aussi, ça a été cause d'erreur. Saint Thomas dit la prima via, prima, est manifestation via, qui sumitur ex parte motus. Bon, là, c'est très clair. Quand dit saint Thomas dit ex parte motus, c'est le point de départ. On part du mouvement. On part de ce qui est mu. Il aurait mieux fait le même encore là de dire « ex parte quod movetur » de ce qui est mu. C'est ce qu'il dit dans l'article, dans l'explicitation. Plutôt que « motus ». Parce que « motus » on dit du mouvement. Alors le mouvement c'est abstrait. Donc on part de ce qui est mu. Vous voyez, ça c'est des petites corrections que je crois que saint Thomas aime bien qu'on lui fasse. Hein. parce que c'est pour expliciter davantage. Alors, la seconda via, elle part de la cause efficiente. Alors, on a dit, voyez, la seconde voie, c'est la cause efficiente, mais pas du tout, c'est le point de départ. Le point de départ n'est jamais l'argumentation. Le point de départ n'est jamais le métaxu. Le point de départ, c'est la constatation. Je constate qu'il y a un ordre dans les causes efficientes. Hein, c'est bien ça qu'il va dire. La seconde voie se réfère à la notion de cause efficiente. D'abord, on ne dit pas la nous, oui, extractionner, cause efficientis. Mais je ne crois pas qu'on doit dire. Elle se réfère, je dirais plutôt, à la structure de la cause efficiente. Elle se réfère à l'exigence de la cause efficiente. Si je pars d'une cause efficiente, si je constate qu'il existe dans le monde des causes efficientes, je peux dire immédiatement que Dieu existe. Vous voyez, faites cette constatation tous les jours. Quand vous écrivez sur du papier, hein, vous prenez des notes. Hein, ex parte, ex ratione cause efficientis. Hein. Vous êtes cause efficiente de ce que vous écrivez. C'est merveilleux, ça. Cause efficiente de ce que vous écrivez. Vous êtes cause efficiente. Eh bien, à partir de là, je peux dire immédiatement Dieu existe. Immédiatement. Verticalement, Dieu est présent dans la causalité efficiente. Toute causalité efficiente, comme causalité efficiente, exige la présence de Dieu. C'est extraordinaire, ça, comme lecture métaphysique, hein, la lecture métaphysique de la cause efficiente. C'est ça la seconda via, la lecture métaphysique de la cause efficiente. Je veux saisir ce que c'est que la cause efficiente. Nous constatons, donc, point de départ, nous constatons à observer les choses sensibles, qu'il y a un ordre entre les causes efficientes. In venitur enim, in isti sensilibus, esse ordinem causarum efficientium. Donc il y a un ordre. Je constate le tooti, je constate qu'il existe dans les choses sensibles. Donc ce que je constate immédiatement, je constate dans les réalités sensibles, nous trouvons dans les réalités sensibles, qu'il y a un ordre des causes efficientes. C'est pas seulement la cause efficiente, mais c'est l'ordre qui existe dans les causes efficientes. C'est exactement ce que vous faites quand vous écrivez. Il y a un ordre dans les causalités efficientes. Parce que votre porte-plume se met à agir, parce que vous avez l'intention d'écrire. Tout d'un coup, vous dormez, votre porte-plume s'arrête. Et on s'aperçoit que vous dormez quand votre porte-plume s'arrête. Immédiatement. Il y a un court-circuit qui se fait. Nous constatons à observer les choses sensibles qu'il y a un ordre entre les causes efficientes. Mais ce qui ne se trouve pas et qui n'est pas possible, c'est qu'une chose soit la cause efficiente d'elle-même. Alors prenons le nec tamen in venitur, nec es possibile. Alors, ça c'est intéressant de voir la manière dont saint Thomas dit. Cependant, on ne trouve jamais et il n'est pas possible que quelque chose aliquid sit causa efficiens sui ipsius. Ça, c'est contre Descartes. Causa sui. Hein, vous voyez bien, c'est contre Descartes. Si Descartes avait lu saint Thomas, il n'aurait pas dit ça. S'il avait accepté l'autorité de saint Thomas. Donc, il est impossible qu'il y ait quelque chose qui soit cause efficient de soi-même, de lui-même. Il est impossible que quelque chose soit cause efficiente de lui-même. Parce que ainsi, il serait antérieur à lui-même, ce qui est impossible. Si vous dites que vous êtes cause efficient de vous-même, il faut dire que vous êtes vous-même antérieur à ce que vous êtes. Non autem est possibile, quas in causis efficientis, procedatur infinitum. Donc, vous voyez, je mets comme pour tout à l'heure, comme pour la première via. Mettez tout simplement, premièrement, l'expérience avec jugement d'existence. Deuxièmement, le principe. Alors, notez bien le principe ici. Le principe est dit d'une façon négative. Il n'est pas possible, impossibile est, il n'est pas possible que quelque chose soit cause efficiente de soi-même. Vous voyez, c'est drôle de principe. Hein? Là encore, saint Thomas aurait pu dire ça de façon un peu plus claire. Hein? Parce que c'est toujours très difficile de comprendre un principe négatif. Il est impossible que quelque chose soit à cause de lui-même. C'est très bien de dire ça, mais ça ne prouve rien, ça. D'un principe énoncé d'une façon négative, je ne peux conclure que de façon négative, en bonne logique. Or, saint Thomas va conclure d'une façon positive. Et saint Thomas connaît sa logique. La question que j'avais posée quand j'ai été étudiant à mon bon professeur de théologie. C'est vrai, c'est intéressant de voir ça. Il faut voir que de fait, au point de vue démonstration, ici vous êtes quelque chose de positif. C'est bien évident, c'est une expérience. Mais le principe est négatif ici. Non est-ce possible, c'est-à-dire il est impossible, que quelque chose soit cause efficiente de lui-même. Parce que, de cette sorte, alors c'est dit très simplement, parce que ainsi, il serait prius et ipso, il serait antérieur à lui-même, ce qui est impossible. Deuxièmement, non. Alors ici, prenez le principe, mettez-le comme vous voulez. Troisième principe de saint Thomas, encore négatif. Il n'est pas possible que dans les causes efficientes, on procède à l'infini. C'est encore négatif. Impossibilité. Deux impossibilités. Donc il est impossible que dans les causes efficientes, on procède à l'infini. Et alors saint Thomas va préciser... Car parmi toutes les causes efficientes, en série, la première est cause des causes des intermédiaires, et les intermédiaires sont cause du dernier terme, quoi qu'il en soit du nombre des intermédiaires, qu'ils soient nombreux ou qu'il n'y en ait qu'un seul. Alors ça, c'est très intéressant. Quia, je le lis en latin parce que c'est plus clair, parce que dans toutes les causes efficientes ordonnées, soulignées ordonnées, dans toutes les causes efficientes ordonnées. Le premier est cause de l'intermédiaire. L'intermédiaire est cause de l'ultime. Ou les médias, donc les intermédiaires, sont plusieurs ou uniques, peu importe. Or, la cause remota, removetur, effectus. Si vous écartez la cause, l'effet est écarté. Si donc il n'y a pas un premier dans les causes efficientes, il n'y a pas non plus d'ultime et d'intermédiaire. Alors ça, c'est la conclusion. Si donc, conclusion, mais comme c'est curieux, si, et c'est négatif, s'il n'y a pas de premier dans les causes efficientes, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire non plus. S'il n'y a pas de premier, il n'y a pas d'ultime, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'ordre, tout simplement. Mais si on procède à l'infini dans les causes efficientes, il n'y aura donc pas de cause première efficiente. Et ainsi, il n'y aura pas d'effet ultime ni de cause intermédiaire. Ce qui est évidemment faux. Alors, je lis le Père Certilange. D'autre part, supprimez la cause, vous supprimez aussi l'effet. Donc, s'il n'y a pas de premier dans l'ordre des causes efficientes, il n'y aura ni dernier ni intermédiaire. Or, aller à l'infini dans les causes efficientes, ce serait supprimer la première. En conséquence, il n'y aurait ni effet dernier, ni cause efficiente intermédiaire, ce qui est évidemment faux. Il faut donc nécessairement supposer quelque cause efficiente première. Vous voyez, il faut donc poser, c'est pas supposer. Hein. Il faut donc poser. Une certaine cause efficiente première. Supponere, ponere, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Parce que, vous voyez, Certilange traduit comme si c'était simplement une hypothèse. Alors, c'est pas une hypothèse. Le raisonnement à l'intérieur est hypothétique. C'est ça qui est très curieux. Ce raisonnement ici est hypothétique. C'est très vrai, il est négatif.
Et ça ne va conclu, non pas du tout par quelque chose d'hypothétique, ergo.
Donc, il est nécessaire de poser une certaine cause efficiente première, que tous nomment Dieu. Vous voyez comme c'est difficile cette seconda via. Hein? C'est à partir de cette seconda via que l'abbé Moreux a fait ses preuves apologétiques sur l'existence de Dieu. C'est exactement ça. Et c'est très apologétique ça. Remonter à l'infini. Hein? Il faut bien nécessairement qu'il y ait un premier, parce que s'il n'y a pas de premier, il n'y aura rien. Or, il existe quelque chose, donc il y a un premier. Oui, c'est merveilleux comme raisonnement. C'est pas si bête, du reste. S'il existe maintenant quelque chose, j'existe, on ne peut pas nier. Le ciel existe, la terre existe, ça existe, ce que je vois. Alors, si vous remontez à l'infini, il n'y aura plus de premier. Donc, plus rien n'existera. Donc, il existe un premier. Hein, c'est une bonne petite preuve apologétique, ça. Hypothétique, merveilleuse, c'est extraordinaire. Alors, il faut l'analyser, cette preuve. Elle est très très jolie. Mais elle est assez terrible, parce qu'elle est très imaginative, vous voyez. Et on risque de la saisir d'une façon purement imaginative. Alors, on va essayer de l'expliquer. D'abord, n'oublions pas ce que je vous ai dit au point de départ. Nous devons lire ces voies de saint Thomas, non pas comme des voies métaphysiques, mais comme la position d'un théologien qui réfléchit sur les capacités de l'intelligence par rapport à l'existence de Dieu. Donc nous sommes dans une position critique. Si on est dans une position critique, on peut employer deux principes sous forme négative. Ça n'a aucune espèce d'importance. En critique, on emploie constamment l'aspect négatif. Et cet aspect négatif me permet de conclure quelque chose de positif, métaphysiquement, pas critiquement. Vous voyez comme c'est astucieux et comme c'est difficile à comprendre, comme saint Thomas joue entre l'aspect critique et l'aspect métaphysique. Et c'est ça qui est très difficile à saisir. Hein. C'est parce que nous, si nous prenons tout simplement l'aspect logique, vous comprenez que cette secunda via ne va pas. La prima via, elle est bien, puisque le principe, tout ce qui est nul est pareil. Non, ça c'est positif, ça va très bien. Mais si c'est négatif, je ne peux rien conclure. De la négation plus la négation, je ne peux conclure que la négation. Donc je peux conclure uniquement, oui, j'expérimente qu'il y a un ordre dans les causes efficientes. Si on remonte à l'infini, il n'y a plus rien. C'est vrai, mais je ne vois pas. Donc, je constate cet ordre-là, puis je ne dis pas, je ne sais pas. Alors, c'est très facile, donc, le hasard. Hein, c'est le raisonnement de Baudot. Parce qu'au fond, c'est le raisonnement de Baudot, ça. Et c'est vrai, parce que c'est apologétique ou c'est anti-apologétique, ça dépend comment. Ça revient au même, hein, parce que c'est rhétorique. C'est une hypothèse, vous prenez sur l'hypothèse. Je vais maintenant essayer de le comprendre. Donc je dis d'abord que ça ne me gêne pas que ces deux aspects négatifs, parce que nous sommes dans une perspective critique. Donc ne transposons pas immédiatement les voies de saint Thomas dans une perspective métaphysique. Ce serait une erreur, et ce serait aboutir à quelque chose qui ne va pas. Mais cet aspect critique présuppose quelque chose de métaphysique. Et c'est ce quelque chose de métaphysique que je vais essayer d'expliciter. Pour que je comprenne l'aspect critique. Parce que l'aspect critique en lui-même est inintelligible. La critique en elle-même n'est pas intelligible. C'est pour ça que Kant est si difficilement intelligible. N'est-ce pas ? Parce que l'aspect critique en lui-même n'est pas intelligible. L'aspect critique présuppose une métaphysique. Explicité ou pas explicité ? Chez saint Thomas, elle est explicité. Donc je peux, en fonction de tout l'ensemble de la philosophie de saint Thomas, expliciter l'aspect métaphysique qui est conclu dedans. Alors, je vais essayer de voir. D'abord, point de départ. La constatation d'un ordre dans les causes efficientes, c'est la constatation du vivant. C'est dans le vivant que vous constatez l'existence d'un ordre des causes efficientes. C'est le propre de l'organisation du vivant. Le vivant est un être organique. Un être organique, c'est un être dans lequel il y a un ordre, une harmonie dans les causes efficientes. Alors, voyez, toute la science moderne, hein, toute la science moderne me met ça avec une force extraordinaire. Toute la biologie, quand vous regardez le développement de l'embryon, c'est extraordinaire, l'ordre des causes efficientes. C'est merveilleux, vous voyez, et c'est bien ce point de départ, hein. C'est bien ce point de départ. Je regarde le vivant. Je constate le vivant que je vois, et dans l'ordre, je vois cet ordre des causes efficientes. Donc, ça, c'est net, pas de danger, je dois dire, c'est très vrai. Il y a un point de départ, jugement d'existence, qui porte sur l'ordre des causes efficientes. L'ordre des causes efficientes. Comment vais-je, à travers l'ordre des causes efficientes, montrer que cet ordre des causes efficientes n'est pas premier ? Que l'ordre des causes efficientes exige nécessairement un autre. Oui, c'est toute l'argumentation. Comment, à partir de la constatation existentielle de l'ordre des causes efficientes, je vais aboutir à Dieu ? Quel est le métaxu ? Il faut montrer. Dieu. Quel est le métaxu ? Il faut montrer que l'ordre des causes efficientes n'est pas premier. Parce que toujours un ordre n'est jamais premier dans l'ordre métaphysique. L'ordre est toujours second dans l'ordre métaphysique. C'est pour ça que la sacrée droite, qui est l'ordre au-dessus de tout, se trompe. Vous voyez ? Parce que l'ordre n'est jamais premier, métaphysiquement parlant. Vous voyez ? L'ordre est toujours quelque chose de second, c'est quelque chose qui n'est pas premier. L'ordre est relatif à autre chose. L'ordre peut être relatif à une mesure, l'ordre peut être relatif à une finalité. Il y aura deux manières de regarder. Tout ce qui est ordonné dépend d'un autre. Ah, ça commence à voir. Tout ce qui est ordonné dépend d'un autre. Alors, c'est bien ça, il est impossible d'être cause efficiente de soi-même. Impossible d'être causa sui. Et c'est la destruction de la causa sui. La causa sui, l'ordre des causes efficientes n'est pas premier. Pourquoi ? Parce que le point de vue de la cause efficiente n'est jamais première. Toute causalité efficiente est seconde. Elle dépend d'un autre. Alors, je peux donc dire, tout ordre des causes efficientes dépend d'un autre. Et ce dépend d'un autre, c'est évidemment la cause finale. Et cet autre, c'est celui qui, justement, est au-delà de l'ordre. Et cet autre est bien la première cause efficiente. Il est au-delà de tout l'ordre des efficiences. Et ce premier, c'est bien Dieu. Donc là, vous saisissez comment, je ne vais pas expliciter plus, nous y reviendrons, hein, la manière dont nous devons présenter aujourd'hui les cinq voies. Nous y reviendrons. Et je veux ici vous montrer ce qui est sous-jacent à la démonstration de saint Thomas. Pour comprendre cette seconda via, qui n'est pas commode à comprendre, telle qu'elle est énoncée par saint Thomas. Elle n'est pas commode du tout. Alors, je vois donc, premièrement, saint Thomas montre impossible d'être causa sui. Vous ne pouvez pas être cause de vous-même. Ça, c'est du gros bon sens. Enfin, c'est évident. La cause est antérieure à son effet. Même Kant est d'accord là-dessus. La cause est antérieure à son effet. Et nécessairement, pour qu'il y ait tel effet, il faut une cause antérieure. Or, si vous êtes l'effet, un bel effet, hein, si vous êtes l'effet, il faut donc une cause antérieure à vous. Et vous ne pouvez pas être vous-même antérieur à vous-même, puisque vous êtes effet. Donc, il faut nécessairement une autre cause antérieure. C'est possible autrement. Vous voyez, ceci montre que l'ordre des causes efficientes n'est jamais quelque chose de premier. Le vivant n'est jamais premier dans l'ordre de l'être. C'est extraordinaire de voir ça. le vivant n'est jamais premier dans l'ordre de l'être. Mais dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de la vie, il est premier. Causa sui, dans l'ordre du vivant, je suis moi-même celui qui se meut. Et voyez la difficulté, c'est que je suis moi-même celui qui se meut. Donc le causa sui Descartes, c'est une confusion entre le vivant et l'être. Je suis causa sui, je suis cause de moi-même du côté de ma vie. C'est vrai, je suis cause moi-même de ma propre opération de pensée. Je cogite. C'est bien moi qui cogite. Et je cogite quand je veux. Et quand je ne veux pas cogiter, je ne cogite pas. Quand je ne veux pas cogiter, je ne cogite pas. Personne ne m'obligera à cogiter. Et c'est vrai, personne ne m'obligera à cogiter. Et je ne veux pas cogiter aujourd'hui. Je me suis réveillé avec la résolution de ne pas cogiter aujourd'hui. Et je ne cogiterai pas aujourd'hui. N'est-ce pas ? Donc je suis causa sui de ma cogitation. Cogito ergo sum, donc causa sui. Oui, je passe du vivant à l'être, et comme je suis maître de ma vie, je suis maître de mon être. Et le petit blocage, j'ai donc causa sui. Alors c'est ça que saint Thomas veut démasquer. Le vivant n'est jamais premier dans l'ordre de l'être. Donc il est causa sui de ses opérations vitales, mais pas de son être. C'est très beau, ça. C'est intéressant de voir cette Seconda Via, tout ce qu'elle contient. Elle montre que le vivant n'est pas premier dans l'ordre de l'être. Et que le vivant présuppose un premier dans l'ordre de l'être. Vous voyez, c'est ce que Monod n'a pas saisi. Il a compris, il a été jusqu'au bout du vivant. Puis tout d'un coup, pirouette, le hasard. Il aurait dû dire pirouette, Dieu. Mais, alors à ce moment-là, il aurait compris que de fait... Il y avait ce primat, il l'a senti, c'est ça qui n'est pas bête, il l'a senti. Il a senti qu'il y a nécessairement quelque chose antérieur, le hasard. Je ne veux pas nommer Dieu, alors je mets le hasard, c'est le paravent de Dieu. C'est exactement ça, c'est le paravent de Dieu, je le cache, mais je dis le hasard. Je ne mets pas le vivant, je mets autre chose que le vivant. Donc avant le vivant, il y a autre chose, c'est impossible autrement. Alors, cet autre, je le nomme le hasard pour ne pas nommer Dieu. Mais c'est là où on voit l'a priori. Pour ne pas nommer Dieu, je mets le hasard. Pour ne pas nommer l'être, je mets le hasard. Parce que si je mettais l'être, je mettrais Dieu. Alors, je mets le hasard. Alors, voyez comment on peut saisir que ce qui a de premier dans le vivant, n'est plus le vivant. Causa sui. Il faut donc quelque chose qui est antérieur au vivant. Je ne peux pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes efficientes. Alors ça, c'est très intéressant. Je ne peux pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes efficientes. C'est-à-dire dans les causes efficientes ordonnées. Alors, saint Thomas va préciser ça Je vais regarder la référence pour vous la donner, parce que saint Thomas précise cette question-là d'une façon très remarquable dans la Somme, où il montre qu'il faut bien comprendre que dans l'ordre des causes secondaires, dans l'ordre des causes efficientes univoques, on peut remonter à l'infini. Mais dans l'ordre des causes efficientes équivoques, on ne peut pas remonter à l'infini. Je vous le dirai là, pour ne pas perdre de temps maintenant. Mais c'est facile à trouver, c'est dans la Somme où saint Thomas montre avec beaucoup de force justement, cette distinction qu'il ne met pas ici et qui est très intéressante pour nous par rapport à la science. Parce que si vous restez uniquement au niveau des causes uniformes, bien, vous pourrez remonter à l'infini. Et saint Thomas donne l'exemple bête, mais très bête. J'enfonce un clou. Le clou, avec un marteau, évidemment, le clou est plus résistant que le marteau. Donc le marteau se casse. Je prends un autre marteau. Le clou est plus résistant, le marteau se casse. Je peux employer une infinité de marteaux pour enfoncer le clou. Or, le marteau est cause efficiente du clou. Donc, je peux employer une infinité de causes efficientes. C'est bien évident. Il y a des jours comme ça, vous savez. Vous cassez votre plume, hein, indéfiniment, pour en prendre indéfiniment. Il n'y a aucune raison que de s'arrêter. Il n'y a aucune raison. Il faudra trouver un ordre. Alors, un ordre qui n'est plus un ordre accidentel. L'ordre accidentel, c'est justement ce fait du marteau qui enfonce le clou. Je peux en employer un infini. Alors, je suis là en face, non pas d'un ordre des causes efficientes, mais je suis tout simplement en face des causes efficientes. Les causes efficientes peuvent être infinies pour enfoncer le clou. Impossible à préciser. Mais si je prends un ordre essentiel dans les causes efficientes, alors à ce moment-là, il y a nécessairement un premier, parce qu'il y a un ordre. Tandis que dans le peraccidens, la cause efficiente peraccidentelle, elle peut être infinie. Ça, c'est une très jolie distinction qui est très importante à faire. Oui, parce que ça fait comprendre comment, dans les sciences qui ne regardent que le point de vue descriptif, je peux remonter à l'infini. Le principe « on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes » ne joue qu'au niveau philosophique. Donc d'un ordre essentiel, et non pas d'un ordre accidentel. Alors, je conclue, la conclusion de saint Thomas est nette. Il faut donc nécessairement supposer quelques causes efficientes premières. Il faut donc arriver à une première cause efficiente que tout s'appelle Dieu. Alors vous voyez que cette secunda via, on dira très facilement qu'elle repose sur la cause efficiente, à cause du point de départ et à cause du terme, et à cause, d'une certaine manière, du métaxu. Alors on dira, cette secunda via n'est pas du tout la cause finale, elle est la cause efficiente. Alors je dirais, tel que saint Thomas l'exprime, au niveau critique, c'est très vrai, c'est la cause efficiente. Mais c'est négatif. Il n'y a pas de premier dans l'ordre des causes efficientes. Mais si je regarde le principe métaphysique sous-jacent à la secunda via, je dis c'est la cause finale. Mais c'est assez subtil, évidemment. Parce qu'il y a un revêtement de causalité efficiente. Et le revêtement de la causalité efficiente est fort, hein, très très fort. C'est pour ça que si je regarde uniquement d'une manière un peu matérielle la secunda via, je dirais que c'est très net, c'est la cause efficiente. Mais je dirais non, c'est pas la cause efficiente. C'est très simple. Le métaxu d'un raisonnement n'est jamais dans la conclusion. Or, dans la conclusion, il y a la cause efficiente. Donc le métaxu n'est pas la cause efficiente. Alors, vous voyez bien cette secunda via. Je n'insiste pas plus. Je crois que ce n'est pas la peine. Une fois qu'on a compris le maniement, on comprend. On comprend que on est dans un aspect descriptif, critique, que nous donne saint Thomas. On n'est pas dans un aspect métaphysique. Selon les apparences, hein, la métaphysique est sous-jacente. Exactement comme ici. La métaphysique est sous-jacente. Ici, la métaphysique est encore plus sous-jacente. Parce que on ne la voit pas tout de suite. Mais si vous réfléchissez sur le raisonnement, vous voyez que ça ne peut pas être autrement. Alors, vous voyez ces deux voies. Ce qui est mieux. L'ordre des causes efficientes. Point de départ, second point de départ. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que l'expérience de ce qui est eu, l'expérience de l'ordre des causes efficientes, le vivant. Ici, je suis au niveau de la réalité nue, c'est-à-dire du physique pur.
Ici, je suis au niveau du vivant. L'expérience que j'ai de toute réalité vivante, l'expérience que j'ai de toute réalité mue, si je le regarde dans un regard métaphysique, exige de poser directement une première cause efficiente, exige de poser directement un premier moment.
Donc on pourrait dire une première causalité efficiente des deux côtés. Mais cette causalité efficiente, en réalité, elle est prise du côté de l'acte. Donc elle est prise du côté métaphysique et du côté causalité finale. Je peux donc dire, dans un regard suffisamment pénétrant au point de vue métaphysique, si je saisis une réalité qui est mue, je suis en présence, métaphysiquement parlant, je suis en présence de la nécessité de poser l'être premier. Si je suis en présence d'un vivant, je suis métaphysiquement en présence, obligé de poser l'être premier. Alors ça me semble très beau, point de vue proprement philosophique. Vous voyez, c'est d'essayer de comprendre comment le regard métaphysique va dépasser l'opacité de ce qui est mu, l'opacité du vivant. Il y a une opacité dans ce qui est mu, il y a une opacité dans ce qui est vivant. Il s'agit de le dépasser. Et pour le dépasser, il faut voir la limite. Je dépasse par la limite. Je dépasse toute opacité par la limite. Quelle est la limite de ce qui est mu? Quelle est la limite du vivant? Et c'est quand je saisis la limite de ce qui est mu et la limite de ce qui est du vivant que je vois la nécessité de poser immédiatement quelque chose qui est source de ce qui est mu, source du vivant. Et je dis bien source, vous voyez, la cause ultime. Et en même temps, je n'oserais pas dire la cause propre du côté final. Mais pas la cause propre du côté de la science. Alors ça c'est très beau, parce que c'est une lecture métaphysique à l'égard du monde physique. C'est une lecture métaphysique à l'égard du monde du vivant. Le monde physique tel qu'il est, le monde physique dans son existence tel qu'il est inintelligible. Jusqu'au bout. Il est intelligible au point de vue de ses lois, au point de vue de ses déterminations, au point de vue de son mouvement, mais pas au point de vue de son existence. Le monde du vivant est intelligible au point de vue de son ordre, c'est bien évident, mais pas au point de vue de son existence. Oui. Alors là, c'est une distinction qui est très importante à faire. Le monde physique possède en lui-même sa propre intelligibilité. Le monde du vivant possède en lui-même sa propre intelligibilité. Mais du côté de son exister, il est totalement dépendant. Tandis que du côté de son intelligibilité, il a son autonomie, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il a son ordre propre. Il y a un ordre propre du monde physique, il y a un ordre propre du vivant. Et l'ordre propre du vivant n'est pas le même que l'ordre propre du monde physique. Et c'est pour ça qu'il y a deux voies. Alors, la troisième voie se prend du possible et du nécessaire. Ex possibile et necessario. Tal qualis est. Donc la troisième voie se prend du possible et du nécessaire. Et elle est telle. Parmi les choses, nous en trouvons qui peuvent être et ne pas être. Constatation. Troisième constatation. Vous voyez la troisième constatation. Ce n'est plus le monde physique. C'est le monde du vivant mais pris du côté de sa génération et de sa corruption, du côté de sa mort. C'est la considération de la mort. Il y a des êtres qui meurent. Ça c'est sûr, il y a des êtres qui meurent. Tous les jours et à chaque instant. Parmi les choses, nous en trouvons qui peuvent être et ne pas être. La preuve, c'est que certaines choses s'engendrent et se corrompent, et par conséquent sont et ne sont pas. bien évident. Du fait même qu'il y a des êtres qui se corrompent, il y a en elle une possibilité à ne pas être. C'est la saveur du néant qui existe dans tout être corruptible. Or, nous sommes des êtres corruptibles, donc il y a en nous une saveur du néant. Il ne faut pas trop la regarder. Yann fait être. C'est dangereux. Il ne faut pas trop la regarder. Et alors, c'est l'odeur du cadavre métaphysique, c'est pas commode. Hein. Il odore la métaphysique, mais le cadavre métaphysique, c'est ça, Yann fait être. C'est extraordinaire de voir ce que dit saint Thomas ici. Vous voyez, c'est moderne à un point extraordinaire, ça. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse métaphysique. C'est le vertige de l'être en face du néant qu'il porte en lui. Chacun d'entre nous, nous portons un néant. Plus ou moins bien, nous le portons. Nous portons plus ou moins bien, parce qu'à certains moments, c'est très lourd. Et alors, on le porte en étant écrasé sous le poids de la croix. C'est la croix métaphysique, l'honnête, que nous portons. C'est la croix métaphysique, c'est sûr. Nous portons en nous du non-être. C'est pas drôle du tout. Voyez. Et la métaphysique souligne ça. Vous êtes marqués au fer rouge, chacun d'entre vous. Alors quand on est jeune, on se dit, non, c'est pour demain, mais les autres passeront avant moi. Alors, on attend que les autres passeront avant moi. Quand on commence à vieillir, il n'y a plus beaucoup qui passeront avant. Donc on voit la saveur du non-être qui est en nous. Et ça se rapproche. Quand vous dites à quelqu'un qu'il a un cancer avancé, que la médecine ne peut plus rien pour lui, la saveur du néant. Se voit jusqu'à son front, ses joues, ça se voit, c'est visible. Il est marqué. C'est très très beau au point de vue métaphysique, hein. C'est pas drôle. La méditation, ce qu'on avait avant, tous les premiers vendredis du mois, au noviciat, méditation sur la mort, tertia via. Mais ça se faisait pas tout à fait sur le style de la tertia via, ça aurait été mieux. Parce que le style de la tertia via, c'est bon comme style, hein. C'est pas mauvais du tout. La troisième voie se prend du possible et du nécessaire. Elle est telle. Parmi les choses, nous en trouvons qui peuvent être et ne pas être. La preuve, c'est que certaines choses s'engendrent et se corrompent. Et par conséquent, sont et ne sont pas. Alors mettons-nous dedans. Parmi ces choses qui sont et ne sont pas, c'est nous. Il y a en nous un vertige vers le néant d'un être. Mais il est impossible que tout soit de telle nature. Ça, c'est le principe négatif. Que saint Thomas donne encore ici de façon négative.